les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Oublions l'interprétation de Peter O'Toole, la mise en scène de David Lean, la musique de Maurice Jarre. Bref, oublions le film en technicolor sorti sur grand écran Super Panavision en 1962. Et suivons la vie et l'œuvre de Thomas Edward Lawrence, grâce à l'émission d'André Velter, diffusée, elle, le 25 octobre 1984. La vie est l'homme d'un homme énigmatique et sa mort tout autant énigmatique.
Une vie, une œuvre. Laurence d'Arabie, La passion de la pureté. Une émission d'André Velter.
Il y a 50 ans, à 6 mois près, en mai 1935, mourait Thomas Edward Lawrence des suites d'un accident de motocyclette. Accident dont il n'est toujours pas établi s'il fut fortuit ou provoqué. L'énigme de la mort de cet homme de 46 ans n'est pourtant que l'une des interrogations que suscite le parcours terrestre, la vie intense, de ce personnage fantasque, indiscipliné, séduisant, contradictoire, violent, pur, et sans doute 50 autres qualificatifs qui exprimeraient tous la même évidence, Lawrence fascine. Évoquer sa vie et l'œuvre qui directement lui est attachée, c'est prendre inévitablement le parti de la passion. Même un rond de cuir de l'état-major anglais ou un sous-secrétaire d'état de l'Empire des Indes ne saurait être tiède avec Lawrence. Alors que l'on n'attend pas de nous plus de mesures, parler de Lawrence, c'est forcément brûler ses vaisseaux et s'aventurer au-delà des lignes de partage du feu. Voilà pourquoi j'ai convié Jacques Darce et Jean-Christophe Victor à m'escorter aujourd'hui. Leur goût du désert et des actions d'éclat les désignaient plus que tout autre pour cette mission quasi impossible. Comment ne pas trahir en effet un homme qui a su mettre autant de génie dans sa vie que dans son œuvre ? Mais avant d'être un rôle somptueux pour Peter O'Toole, je veux dire avant de prendre la légende à bras-le-corps et tenter de s'en défaire comme d'une poignée de sable, Lawrence, d'où venait-il ? Qui était-il ? Jacques Darce.
D'où il venait, on le sait à peu près. Qui il était, c'est une autre paire de manches. Lui-même ne le savait pas toujours, et son grand jeu, c'était d'ailleurs de faire en sorte que tout le monde se le demande. Et un de ses passe-temps favoris, et des plus excentriques et des plus déconcertants, c'était, surtout vis-à-vis d'inconnus, d'entrer dans un rôle pour voir les réactions, pour voir quel effet il faisait sur les autres. Et des effets, il en a fait pendant toute sa vie, parce qu'il avait aussi un grand goût d'épater, une grande capacité de mise en scène, alors qu'il était en tout cas un personnage hors du commun, hors mesure, unique d'originalité. Il ne pouvait rien faire comme tout le monde, ce qui était la moindre des choses, puisqu'il n'était pas comme tout le monde non plus. Un provocateur systématique, en même temps extrêmement secret, qui s'enrobait d'une espèce d'aura de mystère, mais qui lâchait au fur et à mesure, des facettes de personnalité toujours diverses. Quelqu'un qui avait un humour absolument décapant.
Surtout à l'égard de lui.
Surtout à ses dépens, effectivement. Quelqu'un qui était un idéaliste absolu et qui n'arrêtait pas de le prouver, ce qui faisait qu'il était un mystère permanent aussi pour les autres. Un passionné de livres, des livres qu'on lit, des livres qu'on fabrique et des livres qu'on écrit. C'était une tentation depuis sa petite enfance. Et peut-être on pourrait commencer justement par parler de cette enfance, qui était déjà très originale et très marquée.
Oui, il est né le 16 août 1888 à Tremadog, dans le Pays de Galles. Il est le second d'une famille de 5 fils. C'est un enfant extrêmement fantasque, très à part. Pas tellement dans la famille qui comptait des originaux grandin, parce qu'il avait 2 frères qui étaient déjà très particuliers, et son père ne l'était pas moins. Mais lui, par exemple, dès l'âge de 9 ans, tous les soirs, il convoquait la famille et il racontait une épopée qu'il improvisait, souvent en vers, dont le ressort dramatique était constitué par la défense victorieuse, évidemment, d'un château contre de nombreux ennemis. Et cette passion des châteaux l'a tenu pendant toute son adolescence et le début de son âge adulte. Et c'est par cette passion pour les châteaux qu'il s'est retrouvé au Moyen-Orient. Après avoir parcouru la France pendant 3 étés de suite à vélo, faisant preuve d'une extraordinaire vélocité, c'est le cas de le dire. Il était capable de faire des étapes de 250 km alors qu'il avait 17 ans.
Et des pneus qui crevaient quelquefois 20 fois par jour. Pendant une traversée de l'Auvergne, c'est arrivé. Il s'est passionné pour l'art roman aussi. Il savait déjà tout ce qu'on peut savoir en matière de château, on l'a dit, de poterie, de fouilles archéologiques. Tout ça en tant qu'adolescent déjà. Il avait déjà tout lu. Il donnait des conseils à des bien plus âgés que lui.
Oui, d'ailleurs, tous les témoignages de ses condisciples d'Oxford, puisqu'il était à Oxford, le prouvent. Il avait une faculté de mémorisation qui rendait tout le monde fou, parce qu'il ne faisait rien, finalement. Il ne faisait que ce qui l'intéressait, mais côté scolaire, il apprenait par capillarité.
C'était un enfant précoce. Il avait une mémoire extraordinaire. Quand il prenait un livre, il semblait à peine y jeter un coup d'œil, mais je découvris bientôt qu'il en retenait tout. Les leçons ne présentèrent jamais de difficultés pour Ned. Il avait des prix tous les ans. Dans les examens régionaux de 1906, senior, il fut classé premier en langue et littérature anglaise et 13e en first class sur 10 000 candidats. Mrs. Lawrence, mère de Lawrence.
Même autre chose aussi qui ont rythmé sa vie, c'est quand même quelques personnages, et parmi ceux-là, Hogarth.
Oui, oui, Hogarth, qui est l'archéologue, qui lui donne la possibilité de retourner au Moyen-Orient, d'y séjourner 3 ans, grâce à une bourse qu'il lui fait obtenir, et qui aide Lawrence à rester sur place, à fouiller en même temps les fouilles de Karchemish, et surtout, je dirais, entre le temps de travail, d'avoir toutes ces vacances qui lui permettent d'explorer le Moyen-Orient.
Et même pendant le travail, il dit, vivre ici, avec ce genre de vie, ce style de vie des Arabes, cette facilité d'existence, c'est comme un grand jeu. Hein, chaque jour se passe de façon différente, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des révoltes, il y a toujours des contremaîtres avec qui il faut parlementer, discuter, il y a toujours des révoltes de fouilleurs contre les directeurs de fouilles allemands, il y a l'Euphrate aussi qui est là à côté. Il revient en Angleterre et à un voyage suivant, il a acheté un canoë canadien et il s'amuse à dériver, à descendre l'Euphrate par exemple, en période de crue, ce qui est un sport à faire frémir, dit-il. Enfin, ce genre de choses. Il a toujours de bonnes idées et de bonnes inventions.
Oui, puis il y a une chose qui se révèle très vite pendant les fouilles, ce que note un de ses directeurs de fouilles, c'est qu'il s'entend tellement bien avec les travailleurs arabes qui travaillent sur les fouilles qu'il est capable d'abattre en 2 heures ce que toutes les autres équipes abattent en 2 jours, mais aussi de ne rien faire pendant 2 jours. C'est-à-dire qu'il a absolument pris le rythme du pays et il est absolument adoré par les autochtones qui travaillent avec lui parce qu'il s'est entièrement fait à leur rythme et à cette capacité du jeu qui fait aussi partie de la mentalité arabe.
D'ailleurs, on peut dire qu'une de ses règles, c'était de ne pas avoir de règles. Que ce soit en matière d'horaire, il avait horreur des montres, en matière de costumes, il trouvait que les costumes européens sont des choses étouffantes. En matière de nourriture, son rêve, c'était de manger n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. En matière de voyage, il dit la seule façon de voyager, c'est de voyager comme je l'ai fait, en mendiant. C'est comme ça qu'il a traversé la Syrie, d'où ses déboires d'ailleurs. C'est comme ça qu'il raconte aussi qu'il a vécu en paria, dormant au pied de la statue de Lesseps en Égypte. Et quand à un moment il travaille avec un nommé Pietri qui est directeur des fouilles italien, il dit qu'en lui, tout est désordre, sauf la constance dans le désordre. Et ça, ça lui plaît infiniment.
J'ai fini par aimer beaucoup cet endroit-ci. Et les gens d'ici, 5 ou 6 d'entre eux, et toute la façon de vivre me plaît. Nous avons 200 hommes avec qui nous amuser, absolument comme il nous plaît, tant que les fouilles continuent. Et ce sont des types magnifiques pour beaucoup d'entre eux. J'en avais 2, des chefs, avec moi en Angleterre cet été. Et on s'amuse vraiment bien avec eux. Puis, il y a les fouilles, avec quantité de choses admirables à trouver. C'est comme un grand jeu, avec des résultats tangibles au bout. Sais-tu que maintenant je m'emballe pour une inscription ou un nouveau modèle de poterie? Et des foules de belles choses, dans les villages et dans les villes, pour en remplir sa maison. Sans parler de la chasse aux sceaux, dans le pays alentour, et de l'Euphrate, pour s'y délasser quand on a surchaud. C'est un endroit où on mange du lotus presque tous les jours. Et tu sais que la sensation est mauvaise pour les désirs qu'on a de faire quelque chose qu'il vaille la peine de regarder. Lettre de Lawrence à Richards.
Ses cheveux étaient toujours très longs et dans un désordre sauvage. En général, il les trouvait trop longs quand ils lui entraient dans la bouche pendant les repas. Le soir, il mettait par-dessus sa culotte et sa chemise blanche un gilet brodé blanc et or et un somptueux manteau de fil d'or et d'argent, un vêtement de 60 livres qu'il avait acheté à bon marché à un voleur sur la place du marché d'Alep. Le soir aussi, ses cheveux étaient soigneusement brossés, assis devant le feu l'hiver et lisant, en général Homère ou Blake, avec des poèmes de Doughty, avec ses cheveux luisants et cet air de sybarite, il paraissait extraordinairement différent du Lawrence qu'on connaissait le jour. Car tout en trouvant franchement plaisir à pouvoir vivre plus durement que la plupart des gens ne pouvaient ou ne voulaient le faire, et tout en s'accommodant, lorsqu'il parcourait la Syrie à pied, de la chair la plus simple et en très petite quantité, s'habituant volontairement à se passer de tout, il n'était pas sans apprécier le confort. Il ne fumait pas, buvait rarement du vin et ne prenait jamais d'alcool, mais il aimait bien manger, savait apprécier la cuisine arabe que nous mangions à Karchmich et déguster le café avec la science d'un connaisseur. En ce qui concerne le travail effectif, il était singulièrement fantasque. Dès le début, il réussit auprès des ouvriers arabes. En un sens, il le ressemblait assez, car le côté amusant des choses à faire avait autant d'attrait pour lui que leur intérêt scientifique. Lawrence et Hammoudi changeaient brusquement toute la tâche en un jeu, jusqu'à ce que, avec 200 hommes courant et hurlant, une demi-journée de travail fût faite en 1 heure. Mais il arrivait aussi que, venant d'une autre partie du champ de fouilles, je ne trouve à peu près aucun travail fait, parce que Lorraine s'était assis avec les hommes autour de lui, discutant avec eux quelques problèmes de la coutume locale ou éclaircissant un aspect du dialecte. Et si je rouspétais tant soit peu, il ricanait et demandait en quoi cela importait. Témoignage de Sir Leonard Woolley.
Quelle était alors la situation sur ce terrain de l'Arabie, Jean-Christophe Victor?
Il faut savoir que depuis que l'Angleterre, au fond, a ouvert le canal de Suez en 1869, d'une part, et qu'elle a l'Empire britannique des Indes, d'autre part, c'est-à-dire beaucoup plus à l'est, la zone de Suez, c'est-à-dire l'Égypte, les territoires arabes, la mer Rouge, c'est une, ce qu'on appelle une zone stratégique. L'Angleterre doit protéger ses lignes de communication qui passent précisément par le canal de Suez, d'où l'importance de l'Égypte et d'où l'importance du Sinaï. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce que l'Angleterre fait tant d'efforts pour empêcher et gêner l'Empire ottoman dans cette région-là à partir de la déclaration de la guerre en 1914? Deuxième chose qu'il faut savoir maintenant géographiquement, c'est que l'Empire ottoman, c'est, si je me réfère à la géographie d'aujourd'hui, c'est non seulement la Turquie actuelle, mais c'est aussi l'Arménie, le Kurdistan, la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Palestine, moins le Sinaï, et le Nedj, c'est-à-dire la côte nord-est du golfe Persique, et le Hejaz, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire ça comporte ces deux villes très importantes qui sont la Mecque et Médine. Alors voilà pour planter le décor. Alors maintenant, quelle va être la politique anglaise? La politique anglaise, ça va être d'une part d'essayer de mener de grandes opérations avec la marine, avec l'infanterie britannique pour essayer d'enfoncer les grandes armées turques, mais deuxième élément qui va être très important, d'utiliser la révolte arabe pour mener ce qu'on appelle des opérations de harcèlement des armées turques. Et c'est là où, au fond, Lawrence intervient, parce que Lawrence, au départ, est envoyé un petit peu comme un conseiller parmi d'autres, puisque les Anglais avaient donné leur accord aux Arabes, c'est-à-dire à Hussein, de leur envoyer de l'argent, des munitions modestes et des conseillers. Et parmi ces conseillers, il y avait Lawrence, qui n'était pas Lawrence d'Arabie, parce qu'il parlait l'arabe, il connaissait la région et il était doté d'un facteur de persuasion auprès des Arabes que n'avait pas du tout l'ensemble des officiers supérieurs britanniques. Alors au fond, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la vie de Lawrence? C'est qu'il va être capable à la fois de servir les intérêts britanniques en soulevant plusieurs tribus arabes et en leur faisant faire des opérations qui vont se révéler stratégiquement très importantes, c'est-à-dire la fameuse prise de la ville d'Aqaba. Mais il va aussi servir les intérêts arabes, en tout cas au début de la guerre, en faisant en sorte que ces tribus qui sont très éclatées et qui ne conçoivent pas la défense de l'Arabie comme un nationalisme global, mais comme la défense chacune de leur territoire. Il va donc s'employer à servir les intérêts arabes aussi, en réunissant ces tribus les unes avec les autres, et en les aidant, d'une certaine façon, à négocier avec le gouvernorat britannique du Caire un certain nombre d'avantages. Des avantages matériels, c'est-à-dire plus de canons, plus d'artillerie, puis des avantages à moyen terme sur le plan diplomatique, puisque les uns et les autres savaient qu'une fois la guerre terminée, il faudrait dépecer l'Empire ottoman, et puis négocier entre Français, Anglais, Russes, et Lawrence voulait que les Arabes soient aussi partie prenante. Alors voilà, je crois, le décor planté, et à partir de là, on peut discuter de la révolte arabe.
Quand ça commence, il n'y a pas de révolte arabe, il n'y a pas encore de chef. Et la première difficulté, il le dit lui-même dans les premières lignes, c'est de savoir qui étaient les Arabes. Parce que c'est une mosaïque extraordinaire de peuples, d'ethnies, de religions, etc., d'une infinie complexité. On peut dire que les 50 premières pages des 7 piliers débrouillent les chevaux.
La première difficulté du mouvement arabe fut de définir les Arabes. Le nom de ce peuple artificiel a toujours changé de sens d'année en année. Il désignait autrefois les arabesques, habitants d'un pays appelé l'Arabie. Mais ceci n'avait plus de sens pour nous. La véritable définition était fournie par le langage. L'arabique forme la langue courante de la Syrie, de la Palestine, de la Mésopotamie et de la grande péninsule nommée Arabie sur la carte. Avant la conquête musulmane, ces contrées étaient habitées par des peuples divers parlant différents idiomes d'une même famille. Nous les appelons sémitiques, d'un terme incorrect, comme beaucoup de termes en science. Quoi qu'il en soit, les langues arabiques, assyriennes, babyloniennes, phéniciennes, hébraïques, araméennes et syriaques, étaient voisines. Certaines marques d'influence commune, voire même d'une commune origine, sont renforcées encore par le fait connu que les peuples actuels de langue arabe en Asie, pourtant aussi variés qu'un champ de fleurs,
offrent dans leur apparence physique et leurs coutumes des ressemblances essentielles.
C'est là qu'on entre dans le livre, dans les sept piliers, que l'émerveillement commence en réalité. Une des premières missions de Lorenz, qui s'était occupé pendant plusieurs mois à rédiger un bulletin arabe, à usage interne pour l'état-major des renseignements du Caire, une de ses premières missions, c'est d'être envoyé auprès du roi Hussein, qui était une vieille bourrique bien têtue. Il est envoyé là avec Storrs, qui était, dit-il, le plus brillant anglais du Proche-Orient, qui savait l'arabe à la perfection, alors que Lorenz, lui, encore parlait un salmigondi d'arabe qu'il avait appris à peu près dans tous les recoins de Syrie. Il dit que son vocabulaire, aux yeux des Arabes, faisait figure de dépotoir de langue brisée. Alors c'était plutôt hésitant. Et la première mission, c'est ce départ de ces deux quêteurs. Parce que ce qu'ils vont chercher, ils vont chercher d'abord l'oreille de Hussein, et ensuite un chef parmi les fils de Hussein. Ils vont d'abord chez Abdallah, je crois. Et ils le trouvent à la fois trop poli, trop courtois, trop doux, trop civilisé, trop complexe.
Abdallah, monté sur une jument blanche et suivi d'esclaves à pied richement armés, s'avança mollement vers nous à travers les saluts pleins de respect d'une population silencieuse. Il apparut rougissant de son succès à Taïf et plein de joie. C'était un vieil ami de Storrs qui engagea aussitôt conversation. Je voyais au contraire le shérif pour la première fois. Je ne fus pas long, cependant, à reconnaître dans sa bonne humeur un trait constant de caractère. Ses yeux pétillaient sans arrêt, et à 35 ans, il avait les joues pleines. Peut-être fallait-il en accuser son rire. La vie semblait très gaie pour Abdallah. Il était court et fort, avec un teint fleuri, une barbe brune soignée masquait la rondeur lisse de son visage et sa bouche petite. Ses manières étaient ouvertes, en apparence du moins, et sa conversation charmante. Panissant bientôt toute cérémonie, il accueillit chacun avec une aisance enjouée. Pourtant, lorsque la conversation devint sérieuse, ce voile de gaieté légère parut soudain s'évanouir. Il choisit ses mots et joua serré. Les Arabes voyaient en Abdallah un homme d'État aux aperçus lointains et un politicien astucieux. L'astuce ne pouvait lui être refusée, mais elle n'était pas d'une espèce assez haute pour nous convaincre toujours. L'ambition de l'homme éclatait. La rumeur publique faisait de lui le cerveau de la politique paternelle, l'âme de la révolte arabe. Mais il avait en lui, pour être tout cela, je ne sais quoi de trop facile.
Il fait la même tentative infructueuse avec Ali, qui est un autre fils, et avec Zayd, je crois, ou je ne sais pas s'il le rencontre déjà à ce moment-là. Bref, il ne trouve pas chaussure à son pied. Mais la rencontre avec Faisal, puisqu'il obtient l'autorisation spéciale par l'intermédiaire de Storrs et par des tractations un petit peu embrouillées, il obtient l'autorisation spéciale de se rendre à l'intérieur de l'Arabie, qui était tout à fait fermée et contrôlée, pour aller trouver Faisal.
Les entourloupes, les combines que faisait Lorenz pour se faire détacher d'une administration à l'autre, non seulement sont comiques, mais étaient très utiles. Il appartenait à l'armée, où il était à l'époque lieutenant, et il faisait en sorte de se faire détacher par l'autorité politique supérieure au général qui était en poste au Caire, auprès des services de renseignement. Et au fond, c'était un agent de renseignement, puisque à ce moment-là, on l'envoie donc auprès de Faisal pour qu'il fasse ce qu'on appelait une appréciation de situation. Donc il jouait les administrations les unes contre les autres.
Oui, il n'avait pas peur de faire des détours. Il dit que le meilleur moyen de traverser un carré en Orient, c'est d'en parcourir trois côtés. Il a mis à profit le précepte à plusieurs reprises.
Et donc on arrive à l'entrevue de Faisal.
À l'entrevue électrique avec Faisal, qui est d'emblée celui dont il rêvait.
J'aperçus alors, dans l'encadrement noir d'une porte, un personnage vêtu de blanc qui me regardait avec attention. C'était, je le compris au premier coup d'œil, l'homme que je cherchais en Arabie, le chef qui dresserait la révolte arabe en pleine gloire. Dans ses longues robes de soie blanche avec sur la tête un voile brun retenu par une cordelette de pourpre et d'or, Faisal était semblable à une colonne très haute et très mince. Il gardait les paupières baissées, sa barbe noire et son visage sans expression surmontaient d'une sorte de masque l'étrange vigilance immobile de son corps. Ses mains étaient croisées devant lui, sur son poignard. Je le saluai. Il s'effaça pour me faire entrer dans la pièce et s'assit sur un tapis près de la porte. Mes yeux, s'accoutumant à l'ombre, distinguèrent peu à peu dans cette petite salle les silhouettes de nombreux personnages silencieux qui me considéraient ou considéraient Faisal fixement. Lui contemplait toujours ses mains qui, d'un mouvement lent, s'entrelaçaient sur le pommeau de sa dague. À la fin, il me demanda à voix basse comment j'avais supporté le voyage. Je parlai de la chaleur et il demanda depuis combien de temps nous étions partis de Rabigh, ajoutant que j'avais marché vite pour la saison. « Comment trouvez-vous notre camp ici, dans l'Ouadi Safra ?»« Superbe, mais loin de Damas. » Le mot tomba au milieu du groupe comme une épée. Il y eut un mouvement dans l'assemblée, puis chacun se raidit et retint son souffle pendant une minute. Quelques-uns, peut-être, rêvaient de victoires lointaines. D'autres voyaient dans ma réponse une allusion à leur défaite récente. Faisal, à la fin, leva les yeux, sourit en se tournant vers moi et dit « Loué soit Dieu, les Turcs sont plus proches ». Nous sourîmes tous, puis je me levai et demandai la permission de me retirer pour l'instant.
Oui, en fait, Laurence vient trouver le chef nominal de la révolte, mais secrètement, inconsciemment, c'est quand même lui qui en est l'âme de cette révolte.
C'est Faisal. Il me semble, enfin, d'après ce qu'il dit, que c'est justement lui l'âme de la révolte. Il vit comme un saint, il le dit d'ailleurs. Il ne s'occupe de rien, sinon de l'idée. Il est esclave de l'idée, une fois qu'ils sont d'accord.
Mais quel est le rôle de Laurence, alors?
Le rôle de Laurence, c'est d'abord d'insuffler à Faisal l'idée d'une guerre qui serait autant une guerre de prêche qu'une guerre de canon. C'est beaucoup plus important de mettre au point un nouveau système de guerre, une révolte menée par une idée où il ne s'agit pas de tuer le plus grand nombre de gens. Au contraire, il faut éviter les pertes au maximum. Il faut embêter les Turcs au maximum aussi. Mais il faut que les gens électrisés, aimantés par l'idée, viennent d'eux-mêmes grossir les rangs des insurgés, des révoltés. Et l'âme de ça, c'est Faisal. C'est lui qui... Ce que seul peut faire un chef arabe, qui a les connaissances intertribales requises, qui a la diplomatie requise, c'est lui seul qui peut combiner les tribus entre elles. Et ce qui est drôle, c'est que pendant toute la durée du mouvement, enfin pendant les 2 ans de marche de plus en plus triomphale vers Damas, puisque ça s'appelle les 7 pieds de la sagesse, un triomphe, le triomphe c'est celui de cette idée de la libération des peuples arabes. Pendant toute cette durée-là, vont coexister autour de Faisal des gens qui sont entre eux dans un état de vendetta permanent. Il y a des tribus qui commenceraient à jouer du poignard immédiatement s'ils n'étaient pas tenus par le magnétisme de Faisal qui impose qu'autour de lui et pendant la durée de la libération nationale, enfin qui n'est pas encore nationale à ce moment-là, mais qui va le devenir, c'est ça qui est miraculeux, pendant ce temps-là, toute vendetta, tuerie entre clans, les vengeances permanentes, soit arrêtée.
Les razzias aussi.
Et les razzias, bien entendu, sauf au profit
de la cause.
Oui.
Mais ce qui n'est pas clair, c'est le rôle que jouait Laurence entre les Anglais et les Arabes.
Et bah. C'est pas clair pour lui non plus.
Oui, c'est ça.
Ou plutôt, c'est trop clair. Et ça a été pour lui un bourrèlement jusqu'à la fin.
Mais à partir de quel moment ça devient confus pour Laurence? Parce qu'on a l'impression qu'il croit lui-même à la sincérité de ses supérieurs britanniques lorsqu'il se fait leur intermédiaire auprès de Faisal et des Arabes.
Mais... Il connaît l'existence du traité Sykes-Picot, d'une part, et il dit aussi que les intérêts des Arabes à la fin de la guerre, si jamais ça arrive un jour, vaudront ce que vaudra la puissance réelle militaire des Arabes à ce moment-là. Et un jour, il se trouve face, je crois, au gigantesque, au démesuré Aouda, qui lui montre 2 déclarations successives et contradictoires des Anglais, 2 promesses différentes, et qui lui dit « Laquelle de ces 2 déclarations devons-nous croire ?» Il a l'habileté extraordinaire de répondre en riant « la dernière en date ». Ce qui fait d'ailleurs qu'après, chaque fois qu'Aouda changera d'avis, il lui dira que sa dernière intention a été supplantée par une intention plus récente. Et je crois que ce jeu-là ira dans la conscience de Lorenz en s'aggravant. Il sera de plus en plus conscient de l'ambiguïté de son rôle et de plus en plus tenaillé par la fraude qu'il y a, dit-il, à venir prêcher chez d'autres un mouvement national.
l'homme qui accepte d'être possédé par des étrangers mène la pire vie d'esclave, parce qu'il a vendu son âme à une brute. Lui-même n'est pas l'un de ces étrangers. Il peut donc s'opposer à eux, croire à sa mission, tordre et forger cette matière humaine, lui donner une forme qu'elle n'eût jamais prise seule. Dans ce cas, il se sert des forces de son propre milieu naturel pour faire sortir du leur ces étrangers. Ou bien il peut, comme je l'ai fait, les imiter si bien qu'à leur tour, il l'imite. L'homme qui agit ainsi abandonne son propre milieu. Il prétend à celui d'autrui. Et les prétentions sont vaines. Mais ni dans un cas ni dans l'autre, il ne fait quelque chose de lui-même. Il ne crée pas non plus une œuvre assez nette pour être sienne, sans souci de conversion, laissant l'étranger agir ou réagir à son gré devant cet exemple silencieux. Dans mon cas particulier, un effort prolongé pendant des années pour vivre dans le costume des Arabes et me plier à leur moule mental m'a dépouillé de ma personnalité anglaise. J'ai pu ainsi considérer l'Occident et ses conventions avec des yeux neufs. En fait, cesser d'y croire. Mais comment se faire une peau arabe? Ce fut de ma part affectation pure. Il est aisé de faire perdre sa foi à un homme, mais il est difficile ensuite de le convertir à une autre. Ayant dépouillé une forme, sans en acquérir de nouvelles, j'étais devenu semblable au légendaire cercueil de Mohammed. Le résultat devait être un sentiment d'intense solitude, accompagné de mépris, non pour les autres, mais pour tout ce qu'ils font. Épuisé par un effort physique et un isolement également prolongé, un homme a connu ce détachement suprême. Pendant que son corps avançait comme une machine, son esprit raisonnable l'abandonnait pour jeter sur lui un regard critique en demandant le but et la raison d'un tel fatras. Parfois même, ces personnages engageaient une conversation dans le vide. La folie, alors, était proche. Elle est proche, je crois, de tout homme qui peut voir simultanément l'univers à travers les voiles de deux coutumes, de deux éducations, de deux milieux.
La fin, il prend quand même le parti, sans ambiguïté, de la révolte arabe et il fait tout ce qu'il peut pendant la prise de Damas pour donner le plus grand poids possible aux Arabes pour qu'au moins ils aient une poire pour la soif, c'est-à-dire pour la négociation la plus pesante possible. Et il leur donne le contrôle d'un certain nombre de quartiers de Damas et les troupes officielles britanniques qui entrent sont absolument furieuses de voir qu'il a pressé la marche pour faire que ce soit les Arabes qui libèrent Damas et leur donner et le prestige et une partie de pouvoir. Ensuite, les diplomates vont venir sur le terrain et lui va quitter le terrain. Parce que ça aussi, c'est une chose très caractéristique chez Lawrence, c'est qu'au moment où il atteint quelque chose, et c'est un certain succès, le succès devient une chose triste et pauvre. Et il le quitte. Car son départ de Damas est quand même... Enfin, c'est beau comme un mouvement de tragédie. Il est au sommet de la gloire, il vient de conquérir un territoire qui n'est pas mince, donner un terrain et une patrie à une idée qu'il a en grande partie inventée. Et comme il se sent en déséquilibre par rapport, disons, au niveau de la pureté, il n'est pas arabe, il ne se sent pas le droit d'être le porte-parole plus longtemps de cette identité arabe. Et là, il part.
Surtout, l'œuvre est achevée. Maintenant, les Arabes sont à Damas. C'est une ville symbole pour leur nationalisme. C'est à eux de jouer. Il a fait tout ça, dit-il, mu par le souvenir de quelqu'un qui était mort avant la révolte, mais qui a été présent à son esprit, dit-il, pendant chaque heure de ces 2 années et quelques. Cette persona, à qui sont dédiés les vers du début du livre, était morte avant la prise de Damas, mais son rôle à lui est terminé.
À S.A. Je t'aimais. C'est pourquoi, tirant de mes mains ces marées d'hommes, j'ai tracé en étoiles ma volonté dans le ciel, afin de te gagner la liberté, la maison digne de toi, la maison aux 7 piliers. Ainsi tes yeux brilleraient peut-être pour moi, lors de notre arrivée. La mort semblait ma servante sur la route, jusqu'au moment où nous approchâmes et nous te vîmes qui attendais. Tu souris alors, et dans sa jalousie chagrine, elle courut devant, t'emporta dans sa quiétude. L'amour, là de la route, tâtonna jusqu'à ton corps, notre bref salaire, nôtre pour l'instant, avant que la main molle de la terre n'explore ta forme et que les vers aveugles ne s'engraissent sur ta substance. Les hommes m'ont prié d'ériger notre œuvre, la maison inviolée, en souvenir de toi. Mais pour que le monument fût exact, je l'ai fracassé, inachevé. Et maintenant, ils grouillent, les petits êtres, pour se rafistoler des masures dans l'ombre et la ruine du don que je te destinais.
Ce qui est très beau chez Lawrence, c'est qu'à aucun moment il ne veut toucher le moindre dividende d'aucune de ses actions, même des actions les plus héroïques.
Oui. Ça ira jusqu'au droit d'auteur, d'ailleurs.
Et ça va jusqu'au droit d'auteur du livre. Il a une idée très puritaine par rapport à l'argent.
Pourquoi Iten ? Très pur.
Très pur.
Il ne veut pas entendre parler d'argent.
Il y a une exigence intérieure qui le pousse à chaque moment de sa vie à refuser de toucher les dividendes d'une action d'éclat.
Oui, d'ailleurs, il dit lui-même qu'il s'arrête quand il y a une entreprise. Il s'arrête content d'avoir pu, dès que le succès est en vue.
Bédouin, né et grandi dans le désert, accueille de toute son âme cette nudité trop âpre pour les bonnes volontés étrangères. C'est que là seulement, il se découvre libre. Et s'il ne dit pas cela, il le sent. Délié de tout lien matériel, confort, superflu et autres complications analogues, il atteint à une liberté personnelle absolue, fréquemment visité par la faim et la mort. Non pas qu'il fasse une vertu de la pauvreté elle-même, le bédouin jouit des petits vices et des luxes, café, eau fraîche, femme, qui lui restent permis. Mais il possède l'air, les vents, le soleil, la lumière, les espaces découverts et un immense vide. Il ne voit plus dans la nature ni effort humain, ni fécondité. Simplement le ciel au-dessus et au-dessous, la terre immaculée. C'est là qu'il approche inconsciemment de son Dieu. Car Dieu n'est pour lui ni anthropomorphique, ni tangible, ni moral, ni éthique, ni préoccupé du monde ou de lui-même, ni naturel enfin. Il est l'être, ainsi qualifié non par dépouillement, mais par investiture. L'être qui embrasse tout, l'œuf de toute activité. Nature et matière ne sont qu'un miroir pour le refléter. Le bédouin ne saurait chercher Dieu à l'intérieur de lui-même. Il est trop sûr d'être à l'intérieur de Dieu. Il ne peut même rien concevoir qui soit ou ne soit pas lui. Cependant, il trouve dans ce Dieu arabe, qui seul est grand, mais qui est aussi sa façon de manger, de se battre, de faire l'amour, sa pensée la plus familière, son appui et son compagnon, certaines qualités raciales, domestiques, quotidiennes, incompréhensibles aux hommes toujours séparés de la divinité qu'ils adorent par le désespoir d'une indignité charnelle et le décorum d'un culte formel. Les Arabes ne jugent nullement indécent de faire descendre Dieu au sein de leurs faiblesses ou de leurs désirs les moins honorables. Il est le plus familier de leurs mots. Et nous avons perdu en vérité beaucoup d'éloquence en faisant de lui le plus court et le plus laid des monosyllabes de la langue anglaise. Du désert paraît inexprimable en mots, et même, il faut l'avouer, en pensée. Mais on la sent aisément comme une influence. Ceux qui passent dans le désert assez de temps pour oublier son espace et son vide sont rejetés fatalement vers Dieu, comme vers l'unique refuge et rythme de l'existence. Le bédouin peut être nommément sunni ou wahhabi, occupé en fait n'importe quel point de la rose des vents arabes, il prendra la chose fort légèrement, un peu comme les gardes aux grilles de Sion qui buvaient de la bière et riaient d'être sionistes. Chaque nomade individuel a sa religion révélée, non point orale, ni traditionnelle, ni même exprimée, mais instinctive en lui. Ainsi sont nées toutes les croyances sémites, avec toujours, dans leur caractère et leur essence, un accent sur la vanité du monde et la plénitude divine. Quant à leur expression, elle a varié suivant la puissance du prophète et les hasards de sa destinée. L'habitant du désert ne peut tirer de sa croyance aucun crédit humain. Jamais il ne fut évangéliste ou prosélyte. Il ne parvient à se confondre intensément avec son Dieu qu'en fermant les yeux au monde, en négligeant les possibilités latentes qu'un contact avec les richesses et les tentations aurait pu faire épanouir en lui. Il atteint ainsi, sans nul doute, une position spirituelle sûre et puissante, mais combien étroite. Son expérience stérile le dépouille de compassion, détourne sa bonté humaine au profit d'une image dépeuplée, celle du désert cruel où il se cache. Il se fait donc souffrir lui-même non pas simplement pour être plus libre, mais par goût. D'où un plaisir dans la souffrance, cruauté plus précieuse que tous les biens abandonnés. Pour l'arabe du désert, aucune joie n'égale celle de s'abstenir. Il trouve dans l'abnégation, le renoncement et la pénitence volontaire une volupté qui finit par rendre la nudité de l'esprit aussi sensuelle pour lui que la nudité du corps. Peut-être sauve-t-il ainsi son âme sans danger, mais non sans un dur égoïsme. Le désert est transformé en une sorte de glacière spirituelle où se conserve pour l'éternité, pure de tout contact, mais aussi de toute amélioration, la vision de l'unité divine. C'est là que, de temps à autre, les chercheurs détachés du monde extérieur peuvent s'échapper pour une saison et contempler avec détachement la nature des hommes qu'ils devront convertir. La foi du désert est impossible dans les villes. Elle est à la fois trop étrange, trop simple, trop impalpable pour l'exportation et l'usage commun. L'idée essentielle, la croyance fondamentale de toutes les religions et mythes, reste déposée là. Mais il faut la diluer pour nous la rendre compréhensible. Ce cri de chauve-souris sonne trop aigu pour les oreilles de la foule. Notre étoffe grossière laisse échapper l'esprit subtil. Les prophètes, retournant de la solitude, éblouis par un seul regard jeté sur Dieu, montrent à travers leur propre noirceur, comme à travers un verre fumé, quelque chose de la majesté éclatante dont la pleine vision nous laisserait muets, aveugles et sourds, réduits en vérité à cette condition sauvage, étrange, singulière, qui est celle même du bédouin.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أفضل الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرام.
Les disciples cependant, dans leur zèle à se dépouiller et à dépouiller leurs voisins suivant la parole du maître, heurtent les faiblesses humaines et perdent la partie. L'arabe de la ville, du village, pour vivre, doit s'abandonner chaque jour au plaisir d'acquérir et d'accumuler. Par un choc fatal en retour, il devient le plus grossier et le plus matériel des hommes. Le mépris éblouissant de l'existence qui conduisait les autres à une nudité ascétique l'entraîne, lui, au désespoir. Il se dissipe comme un prodigue et, pour en finir au plus tôt, jette à tout vent son héritage charnel. Le juif dans la métropole à Brighton, l'avare, l'adorateur d'Adonis, le libidineux de Damas, révèlent tous la capacité de jouissance sémite. En eux s'épanouit la même force qui donne renversé l'ardent renoncement des Esséniens, des chrétiens primitifs ou des premiers califes, jugeant l'accès du ciel plus facile aux pauvres d'esprit. Le sémite a toujours oscillé entre la luxure et la macération. On peut lier les Arabes à une idée comme à une longe. La libre allégeance de leurs esprits en fait des serviteurs fidèles et soumis. Aucun d'eux n'essaie d'échapper avant le succès. Mais avec lui viennent les responsabilités, les devoirs, les engagements. L'idée meurt et l'œuvre s'achève en ruine. On entraînerait les sémites, il est vrai, aux quatre coins du monde, mais non au ciel, sans croyance, rien qu'en leur montrant les richesses et les plaisirs de la terre. Mais qu'ils rencontrent sur leur route le prophète d'une idée, sans toit pour abriter sa tête et sans moyen de subsistance que la chasse ou la charité, et ils le suivront aussitôt en abandonnant leurs richesses. Ce sont d'incorrigibles enfants idéalistes, aveugles aux couleurs comme aux nuances, et pour qui le corps et l'esprit seront toujours fatalement opposés. Leur esprit est étrange et sombre, riche en affaissement comme en exaltation, sans mesure, mais plus ardent et fertile en croyance que n'importe quel autre monde. Peuple des beaux départs, entraîné le plus follement par le concept le plus abstrait, déployant dans la lutte un courage et une invention sans limite, et indifférent à la fin. Peuple aussi instable que l'eau, mais précisément comme l'eau, assuré peut-être à la fin de la victoire. Depuis l'aurore de la vie, ces vagues tour à tour se brisent sur les falaises de la chair. Chacune d'elles est retombée, arrachant cependant un peu du granit qui l'arrête. Peut-être un jour, une lame semblable roulera-t-elle sans obstacle sur le lieu où le monde matériel aura cessé d'exister, et peut-être l'Esprit de Dieu planera-t-il alors sur le visage de ces eaux. C'est une de ces vagues, et non la moindre, que j'ai pu soulever en Arabie. Au souffle d'une idée abstraite, elle a roulé, grossissant toujours davantage, jusqu'au moment où, incurvant sa crête, elle est retombée à Damas. Son reflux écumeux, repoussé par la fixité des puissances matérielles, composera le corps de la vague suivante, lorsque le temps sera venu où la mer doit se soulever une fois encore.
Laurence, tout en n'étant plus sur le théâtre de ces opérations-là, va continuer à vivre au rythme de ces actions d'éclat, ne serait-ce que par le temps qu'il va passer à écrire ce livre monumental, parce que le livre, bien entendu, est écrit après. Et parallèlement, il y a l'écriture du livre et les négociations officielles ou en coulisses, pendant lesquelles il continue à supporter la cause des Arabes, avec de moins en moins de résultats au plan diplomatique, jusqu'à ce que Winston Churchill
arrange les choses, sauf, dit-il, l'honneur de l'Angleterre, du point de vue des engagements envers les Arabes, des engagements antérieurs.
Mais il est tout à fait essentiel de parler des sept piliers de la sagesse de ce livre absolument unique, d'autant que c'est un livre qui revient de loin. Il en perd une partie, on lui vole le reste. Quand on voit le poids du livre, on se demande ce que, sur la conscience d'un auteur, ça peut être à supporter qu'un drame pareil. Et pourtant, très vite, en 3 mois, il réécrit une deuxième version alors qu'il a été aussi dépouillé d'une partie de ses carnets.
Oui, surtout, il a détruit au fur et à mesure de la rédaction les carnets de notes qu'il avait de la campagne arabe. Alors, il réécrit pendant 3 mois en s'enfermant et à coup de très longues séances. Par exemple, il dit « tel chapitre a été écrit exactement entre 2 levées de soleil ». Il essaie de réécrire le tout. Il le fait en 3 mois.
Et c'est un livre. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans la vie de Laurence des choses cycliques qui reviennent.
Oui, pourquoi 7 piliers ?
Les 7 piliers, ça n'est revenu que 3 ou 4 fois pour le titre des 7 piliers. Quand il avait 16 ou 17 ans, il avait déjà commencé à écrire un livre qu'il avait intitulé « Les 7 piliers de la sagesse » et qui devait s'appuyer sur les 7 grandes villes du Moyen-Orient. Et puis il a brûlé ce manuscrit en 1914 et au nom de ce souvenir ancien, de cet ancien manuscrit, il a intitulé celui-ci « Les 7 piliers de la sagesse ». Et la première version lui a été dérobée. Et il réécrit la seconde, et en réécrivant la seconde, elle est tellement volumineuse qu'il la réduit ensuite. Donc finalement, les 7 piliers de la sagesse, il n'est pas allé jusqu'à 7 versions, mais il y a eu un prémisse et 3 versions successives. Et pour l'édition, c'est encore plus compliqué. Il va l'éditer, il ne va pas l'éditer, il va le donner à lire, il ne va pas le donner à lire. C'est une complexité psychique chez lui qui est quelque chose d'extraordinaire.
Ça se situe en plus, on n'en a pas encore parlé, à ce qu'on a appelé la partie de cache-cache après la guerre. Il devient tout d'un coup extraordinairement célèbre en Angleterre et il fuit cette célébrité parce que la mauvaise conscience dont on parlait tout à l'heure et son sentiment de fraude à l'égard des Arabes fait qu'il estime ne pas avoir le droit moral de tirer le moindre bénéfice même du récit de la révolte arabe. Le moindre bénéfice de gloire alors qu'il ne détesterait pas du tout être célèbre.
Pour quelles raisons est-ce qu'on aime ce livre ? Et finalement, la difficulté de raconter en une heure, ce qui est pourtant beaucoup de temps, la vie et ce qu'a écrit Laurence, pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir un fil conducteur ? C'est parce que, au fond, ce qu'il y a d'attachant et de fascinant chez Laurence, c'est précisément non seulement tous les aspects de sa psychologie, mais que chez lui, tout est un peu égal au contraire, et que le contraire, il en joue aussi. Donc au fond, on essaye de réduire un personnage à une addition de dates et d'événements politico-militaires, alors qu'au fond, ce qui est attirant, c'est justement toute sa nuance, toute sa psychologie, le fait qu'il est capable de jouer les uns contre les autres, et qu'il est capable d'avoir plusieurs personnalités à la fois, soit au même moment, soit successivement. Et c'est un petit peu tout ça qui passe dans le livre. Simplement, ça passe très, très en finesse et très en détail parce que c'est un gros livre. Et alors, non seulement il décrit tous les événements, et il y a une chose tout à fait intéressante, je trouve, à la fin de l'édition de Payot sur les 7 piliers de la sagesse, c'est sur 2 ans, je crois, 1917-1918, tous les lieux en Arabie où il se déplace avec les dates. Or, on s'aperçoit que c'est un homme qui reste tout au plus 2 jours au même endroit, d'une façon générale, au cours de ces 2 ans en tout cas, et généralement 1 jour. Alors, il y a toute la succession de ces villes où on s'aperçoit qu'il n'arrête pas de bouger. Alors, cette impression de mouvement se dégage parfaitement bien des 7 piliers de la sagesse.
J'errais le soir venu dans le taillis derrière les tentes. Soudain, l'entrelac des branchages s'illumina des lueurs crues d'une flamme dardée. À travers flammes et fumées, cependant, arrivaient des bruits de tam-tam, rythme des tambours, battements de mains, grondement profond d'un cœur de tribu. Je me faufilais sans bruit. Des centaines d'athéibas, assis à terre autour d'un feu immense, suivaient avec une attention extrême Chokir, qui, debout et seul dans leur cercle, dansait la danse de son chant. Il avait jeté son manteau, sa robe, sa kufiyeh également blanc, et la pâleur de son visage ravagé réverbérait l'éclat puissant des flammes. Il chantait en renversant la tête et à la fin de chaque phrase, élevant les mains pour laisser ses manches redescendre jusqu'aux épaules, il agitait frénétiquement ses bras nus. Toute la tribu alentour battait des mains en mesure et, sur un signe de tête, au refrain, aboyait à pleine gorge. Le bosquet où je me tenais moi-même, hors du cercle de lumière, étaient bondés d'Arabes étrangers à la tribu qui chuchotaient.
Les sept piliers de la sagesse, pour moi, c'est d'abord une capacité extraordinaire de décrire des paysages, des sensations, des actions et des hommes, avec une faculté de perception de tout cela à la fois, comme si Laurence avait des antennes multiples et démultipliées. C'est-à-dire que au lieu de raconter une chose, une action d'éclat, une attaque à la dynamite de la voie ferrée, il va décrire par le détail la montée dans telle dune, l'arrivée sur tel paysage, par qui il était accompagné, ce que pensaient ses compagnons, ce que lui pensait, ce qu'il penserait demain. Il y a un univers extraordinairement diversifié et chaque chose est décrite justement avec cette capacité de perception qui me paraît absolument unique. Et finalement, l'action elle-même, le fait d'aller dynamiter la voie ferrée, ou le fait de traverser tel désert, ou le fait d'attaquer Aqaba, ou le fait de prendre Damas, ça n'intervient que comme un éclair dans le récit. Tout est déjà dans les choses, tout est déjà porté dans le mouvement même de la description des choses et des éléments. Et on se sent absolument enfoui dans ce torrent, dans ce fleuve, dans cette dune en marche qui est décrite par le récit. Et puis, tout est décrit dans le récit sans qu'il y ait une phrase de trop, un mot de trop, une virgule de trop. C'est véritablement le seul livre de cette ampleur, 800 pages, où il n'y ait rien n'a retranché jamais. On peut avoir des passions littéraires, on peut avoir ce sentiment quand on lit Les Frères Karamazov ou L'Idiot de Dostoïevski, quand on arrive dans les 50 dernières pages, que c'est un drame parce qu'il ne reste plus que 50 pages à lire et qu'on a peur de les lire parce que c'est tellement exceptionnel qu'on voudrait bien pouvoir recommencer au début. Avec Laurence, j'ai eu ce sentiment dès la première ligne. C'est-à-dire que toute ligne lue est une ligne en moins qui nous est arrachée comme véritablement une perdition dans laquelle on serait jeté parce qu'on ne pourra plus la relire avec le même œil neuf. Et pour moi, c'est une chose unique parce que chaque ligne est définitive, est exactement là où elle doit être et elle détermine une aventure humaine et au-delà de ça, presque une aventure cosmique qui est sans exemple.
Ces pages ne comptent pas l'histoire du mouvement arabe, mais la mienne dans ce mouvement. C'est un récit qui traite de la vie quotidienne, de menus faits, d'humbles hommes. On n'y trouvera ni des enseignements pour le monde, ni des révélations qui bouleversent le public. Il est bourré d'événements sans importance, en partie afin que personne ne prenne pour de l'histoire les débris avec lesquels un homme pourra quelque jour écrire l'histoire, en partie à cause du plaisir que j'ai pris à évoquer ce compagnonnage de la révolte. Nous nous étions pris d'affection, et les souvenirs se mêlent ici de l'étendue des espaces libres sous le ciel, du goût des larges vents, de l'éclat du soleil et des espérances qui soutenaient notre tâche. Cela sentait le matin, et la fraîcheur du monde à venir nous grisait. Nous nous exaltions sur des idées indicibles et semblables aux nues, mais qui valaient le combat. Nous vécûmes plusieurs vies dans ces campagnes en tourbillon, jamais ne nous refusant ni aux mauvais ni aux bons. Pourtant, quand nous fûmes au terme et que vint l'aube du monde nouveau, les hommes des anciens jours reparurent et nous dérobèrent notre victoire, et ils la réformèrent à la ressemblance du monde antérieur qu'ils connaissaient.
après commence la partie de cache-cache entre cette gloire qui l'assaille sous une forme qui ne lui plaît pas, pour ne plus être Laurence d'Arabie, lui qui est maintenant, qui pourrait être général et anobli, comme il en avait rêvé à 27 ans, s'engage comme simple soldat pour fuir Lorenz, et aussi, pense-t-on, et il le dit dans certaines lettres, pour trouver la matière d'un autre livre, s'engage comme simple soldat et passera pendant près de 4 mois sous le nom de Ross dans la RAF.
C'est au début de 1922. Il passe 6 mois dans la RAF et... Ce qui se passe, c'est qu'il aurait bien voulu rester et continuer, mais il est évidemment...
Dépisté, débusqué.
Oui, par une de ces taupes journalistiques habituelles qui vont évidemment en tirer matière à copie et vont lui perturber la vie assez sérieusement, parce qu'il va être obligé de démissionner de la RAF.
Il est vidé de la RAF, à ce moment-là, il se trouve sans argent, sans envie d'en gagner et sans possibilité de se cacher définitivement. Alors il va... usé d'un nouveau subterfuge, et en 1923, on le voit sous le nom de Shaw s'engager dans le Royal Tank Corps, où c'est beaucoup inférieur à ce qu'il espérait. Il aimait beaucoup la RAF, il voyait dans l'aviation des possibilités d'avenir immenses, alors que là, il se trouve encaserné, misérable, et dans un environnement, dit-il, bestial, et qu'il déteste.
Il fait de l'ancrage de vareuse.
De l'ancrage de vareuse.
Oui, les vareuses et les pantalons de l'armée, c'est lui qui est chargé de mettre la numérotation.
Là, il en a pris pour 7 ans. Pendant ces années-là, déjà dans la RAF, il avait commencé à noter ses impressions au jour le jour, ou plutôt à la nuit venue, quand tout le monde dormait, il notait les événements de la journée, qui étaient extrêmement brutaux et qui mettaient sa sensibilité à rude épreuve. Il garde ces notes-là et il garde dans la tête l'idée de faire un livre qui deviendra plus tard The Mint, La Matrice, sur son expérience dans l'armée. Et pendant ces 7 ans, il va bientôt se trouver, et ça c'est en 1927, je crois, 28, il se trouve envoyé à Karachi, et il sortira d'ailleurs pas de la caserne.
Non, et aussitôt, encore une fois, cette lèpre journalistique va le rattraper, parce qu'à ce moment-là, il y a des événements qui se passent dans le pays voisin, qui est l'Afghanistan, où le roi Amanullah, qui est le roi le plus occidentalisé que l'Afghanistan ait connu, c'est-à-dire c'était un personnage mi-sympathique, mi-bouffon, qui s'était mis à parodier l'Occident. Il obligeait les Afghans à s'habiller en complet veston, il portait faux col et chapeau claque. Et évidemment, sur un peuple comme le peuple afghan, ça n'a pas résisté longtemps aux traditions, y compris aux traditions guerrières. Il a été liquidé par une révolte populaire. Et Laurence étant à proximité, tous les traîne-copies du monde ont immédiatement imaginé que le super-espion anglais avait mis la main au renversement de ce roi afghan.
Il faut préciser que Laurence était exactement à la frontière afghano-empire britannique des Indes, puisque de Karachi, on l'avait envoyé à Lahore, puis de Lahore à Miranshah, qui est juste à la frontière, où il y a un tout petit aéroport, où là, il réparait des moteurs.
La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faisait dans l'armée ?
Mais peut-être tout simplement sortir de la vie, sortir de la réalité.
Une réalité qu'il ne voulait pas affronter. Il dit que ça le libérait de plusieurs soucis, pas de croûte à gagner, la pitance assurée, l'obéissance assurée. Il a parlé de lui-même de suicide spirituel, d'avilissement recherché. Il dit aussi que c'était la dernière étape avant la maison de fou, parce que effectivement, c'est pas une existence. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans ? Il menait une vie de vrai moine laïque, il s'abstenait de tout, il jeûnait, et je crois que la raison profonde était littéraire aussi.
Oui.
Une des raisons profondes.
Moi je trouve que c'est un des exemples de désir d'écriture les plus fous qui aient jamais existé. Que quelqu'un subisse ce qu'il a subi pour pouvoir, au bout du compte, faire un livre comme La Matrice, je ne connais pas d'autre écrivain qui ait poussé le désir de l'œuvre à ce point de folie.
Bureau de recrutement. Dieu que c'est horrible. hésité durant 2 heures, en faisant les 100 pas dans une immonde rue, lèvres, mains et genoux qui tremblotent au point que j'en perds le contrôle, le cœur qui cogne par peur de cette petite porte que je dois franchir pour m'engager. Si j'essayais de m'asseoir un instant au cimetière, c'est ça qui en a été cause. Et maintenant, les toilettes les plus proches. Ah oui, bien sûr, sous l'église. Qu'est-ce donc que racontait Baker au sujet de la corniche? Dessous. Il m'en reste donc 30. Crois-toi, vieille essuieuse de lunettes. Je ne peux pas te donner de pourboire et pourtant c'est la presse. Gagné d'une courte tête. Mon soulier droit est crevé le long de la trépointe. Mon pantalon devient effiloche. Une des raisons par quoi j'ai compris que je n'étais pas un homme d'action, c'est cette classique débâcle des boyaux avant un moment critique. Néanmoins, c'est fini. J'y vais et j'entre directo. Attendre au-dessus pour l'examen médical. Parfait. Cette pyramide d'effets trempés par terre signifie qu'un homme plus sale que moi me précède. À mon tour maintenant, enlevez tout. C'est nu que nous entrons dans la RAF. Ross ? Eh oui, c'est moi. Des officiers. 2. Vous fumez ? Pas beaucoup, monsieur le major. Eh bien, ce sera plus du tout, compris ? 6 mois passés, oui, depuis ma dernière cigarette. Néanmoins, pourquoi irais-je me trahir ? Les nerfs emplotent. Les doigts durs du médecin à l'accent écossais martèlent et remartèlent la caisse sonore de mes côtes. Je dois être diablement creux. Tournez-vous. Debout. Mettez-vous là-dessous. Faites-vous aussi grand que possible. Il fera juste le 1m68. Mac, poitrine, mettons 86. Inspiration à fond. Matin, 96. Ça ira. Maintenant, sautez. Plus haut. Levez la jambe droite. Tenez-la comme ça. Toussez. Très bien. Sur la pointe des pieds. Les bras tendus devant vous. Écartez bien les doigts. Restez comme ça. Tournez-vous. Penchez-vous en avant. Tiens, tiens. Qu'est-ce diable que c'est marqué là ? Une correction ? Non, monsieur le major. Plutôt un genre de persuasion, monsieur le major, je suppose. Visage, cou, poitrine me brûle. Voilà qui expliquerait les nerfs. Sa voix se fait plus douce. Ne les inscrivez pas, Mac. Mettez 2 cicatrices parallèles sur les côtes. Qu'est-ce que c'était, mon garçon ? Des blessures superficielles, monsieur le major. Répondez à ma question. Une déchirure en franchissant une clôture de fil de fer barbelé. Et pendant combien de temps n'avez-vous pas mangé à votre faim ? Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'il allait repérer ça. Depuis avril, j'ai prélevé sur mes amis autant de repas que j'osais, tous ceux que ma vergogne me permettait de prendre. Je fréquentais le perron du duc d'York vers l'heure du déjeuner, de façon à m'en aller avec quelqu'un à son club pour y prendre la nourriture dont le besoin m'étouffait presque. Faire bonne contenance, ça vaut mieux. J'ai eu un peu faim ces 3 derniers mois, monsieur le major. Comme le gosier me brûle. Plutôt ces 6 derniers. Telle fut la réplique, dans un grognement. Le pis, quand on ment nu, c'est que la rougeur est visible du haut en bas. Un long silence, durant lequel je frissonne tout à ma honte. Il me fixe avec une telle gravité, et mes yeux larmoient. Oh, cela fait mal. Comme je voudrais ne m'être point lancé dans cette affaire. Enfin, très bien, remettez vos vêtements. Vous n'êtes pas en aussi bon état qu'il faudrait, mais après quelques semaines au dépôt, vous récupérerez bien. Merci beaucoup, monsieur Major. Très bonne chance, mon garçon. C'est Mac. Grognement de celui qui parle plus doucement. Et revoici le marché aux légumes, pas changé. Je tremble encore de partout, mais en tout cas, j'ai passé.
une fois qu'il a amassé cette matière qui donnera la matrice, finalement, les événements le rattrapent, comme toujours. Les journalistes le rattrapent, il ne peut plus rester au Pakistan puisqu'on le prend pour un super espion. Il y a alors là tout le côté politicien, généraux, enfin tout le monde panique. On le rapatrie de force, car il ne voulait pas bouger, on le rapatrie de force en Angleterre. Et là, en Angleterre, il va, grâce à d'autres amitiés, pouvoir s'appliquer pendant quelques années à des recherches sur les hydravions.
Après avoir cherché en vain à trouver une place de gardien de nuit et des choses comme ça, enfin des métiers absolument parallèles.
Et il commence à travailler sur les hydravions. Il se révèle d'ailleurs un spécialiste tout à fait émérite. Il met au point un certain nombre de prototypes. Et il dit que là, il semblerait qu'il ait été assez heureux dans cette existence très technique, très rythmée par des amitiés de caserne et des amitiés qui avaient un but concret qui était de réaliser une machine extrêmement moderne, performante, nouvelle, qui lui permettait d'être un autre personnage. Constamment, il a changé de peau, il a changé de personnage, et là, on le trouve dans une sorte de super ingénieur, finalement.
Mais parallèlement à toute cette activité, même avant, dans l'armée, il y avait les visites et les échanges de correspondance permanentes avec Doughty, avec Hogarth, avec Thomas Hardy, avec
Bernard Shaw,
qui était très important, Robert Graves, Garnett, qui fera l'abrégé de la révolte dans le désert, Forster aussi, et des artistes peintres comme Kennington, Rothenstein. Tout ça, c'était aussi un versant très important de sa personnalité, et de son activité, et de son bonheur peut-être. Un bonheur très pâle, enfin, surtout que chaque fois qu'il allait voir Bernard Shaw, par exemple, il était sûr d'être puni parce qu'il y avait un certain nombre de kilomètres à avaler et que sa moto pouvait pas... Les histoires de moto, c'est très compliqué. C'était sa seule joie pendant toutes ces années de foncer sur les routes à des vitesses torrentielles. Il raconte un jour que sur certaines petites routes entre le Dorset et Londres, il a fait les 200 kilomètres en 2h45. Ça aussi, ça recoupe des événements anciens, puisque déjà dans sa jeunesse, entre Le Caire et Boulac, il faisait des excès de vitesse à motocyclette, et puis ça va le mener.
Et avec des Rolls dans le désert.
Oui, il faisait aussi le fou
en auto-blindé. Et finalement, la motocyclette et la vitesse, ça sera sa perte, encore que on ne soit absolument pas sûr de la réalité de l'accident final. C'est-à-dire que le 13 mai 1935, il va poster un télégramme à quelques kilomètres du lieu où il réside à ce moment-là. Et sur le chemin du retour, il fait un écart avec sa motocyclette parce que deux cyclistes auraient été du mauvais côté de la route. Ça, c'est la version, disons, admise et plus ou moins officialisée. Mais il y a toujours l'idée de cette voiture qui aurait croisé la motocyclette et qui l'aurait envoyée dans le fossé. Ça n'est que l'énigme finale d'une vie qui est en grande partie énigmatique, et à mon avis qui doit le rester en grande partie, car elle est maintenant entrée dans la communauté de rêve de nous tous.
Pour le moment, je suis installé dans mon chalet et je m'habitue à une existence vide. Quand ce temps sera passé et que je recommencerai à courir le monde, je verrai.
Une vie, une œuvre. Laurence d'Arabie, La passion de la pureté. Une émission d'André Velter, avec Jacques Dars et Jean-Christophe Victor. Texte, extrait 2, Les sept piliers de la sagesse, édition Payot. La matrice, les textes essentiels, les lettres, édition Gallimard. Traduit par Étiamble et Yasu Gauclair et Charles Moron. Lu par Serge Sautreau, Jacqueline Taous, Anna de Carvalho. Prise de son, Olivier Berotte, Vincent Deck. Réalisation, Mireille Cros.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 octobre 1984. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.